Que nous puissions entrer ce matin dans la présence de Dieu. Voilà, c'est bon. Et ce matin, nous allons commencer la série proprement dite, dont le titre est De la conversion à la transformation. De la conversion à la transformation, c'est ce qui représente la. Donc, la conversion à la transformation, c'est la première partie que nous voulons voir donc cet après-midi, afin d'avancer ensemble. Que dit la Bible donc sur ce processus exactement? Quand nous nous sommes convertis à Christ, nous sommes venus à lui parce qu'on avait un problème particulier où nous sommes nés dans une famille chrétienne. Nous avons entendu l'évangile. Nous avons reçu Jésus comme sauveur et Seigneur. Mais quelque temps plus tard, nous nous sommes rendus compte d'une chose, que cette joie qui nous habitait a commencé à s'évaporer comme la rosée le matin au lever du soleil. Et nous avons constaté que l'ancienne vie que nous menions semblait revenir en surface. Et les luttes ont commencé. Les luttes ont commencé pour voir, mais pourquoi, Seigneur, il y a 6 mois, j'avais la joie, j'avais la paix, mais pourquoi maintenant? Est-ce que le vieil homme est-il mort ou non? Il y a tellement de questions que nous posons, à force de les poser, nous avons abouti à beaucoup de livres sur la démonologie. Et nous avons attribué aux démons ce qui revient à la chair. Nous avons confondu les œuvres de la chair avec les œuvres des démons. Alors que la Bible dit clairement dans le livre de Paul aux Galates que les œuvres de la chair sont manifestes, elles sont évidentes. Elles n'ont rien à voir avec les démons. Quand nous lisons la Bible, nous devons croire ce que Dieu dit. Dieu n'a pas dit « les œuvres de Satan sont manifestes ». Il dit « les œuvres de la chair, elles sont manifestes ». Et même la magie fait partie des œuvres de la chair. L'idolâtrie fait partie des œuvres de la chair. Alors, si les œuvres de la chair sont manifestes, et on ne parle pas aux non-chrétiens, on me parle à moi le converti, à moi qui suis né de nouveau. Cela veut dire que je dois prêter attention, et puisque la Bible me dit de ne plus marcher selon la chair, de commencer à marcher selon l'esprit. Comment quelqu'un pourrait-il marcher selon l'esprit s'il ne sait même pas qu'est-ce que la vie de l'esprit? Je vous pose la question. Comment pouvez-vous marcher selon l'esprit si vous ne savez pas qu'est-ce que l'esprit d'abord? De quel esprit on parle? Le Saint-Esprit ou votre esprit? Voici la confusion qui s'installe. Et cette confusion amène les chrétiens à ne pas prendre l'envol. Ils n'arrivent pas à s'envoler. Vous savez, il y a trois oiseaux, bien une apparenté d'oiseaux qui se ressemblent. Il y a le premier qui, bon, c'est pas un oiseau proprement dit, c'est la poule. Elle ressemble à un oiseau, elle a 2 ailes, elle a un bec, elle a des tout comme un oiseau, mais quand elle vole, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vole tout juste 1 mètre, pas plus, 2 mètres. Et elle ressemble à un oiseau, mais elle n'est pas un oiseau. Il y a ensuite les vautours qui s'envolent, mais qui ne vont pas très haut. Et toujours, ils sont tournés vers le sol, cherchant à savoir s'il y a quelques vieilles pourritures qu'ils peuvent revenir se rassasier de ça. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas s'éloigner du sol, de la terre, parce que toute leur vie dépend de la vie de la terre. et même pas des choses vivantes, des choses qui sont mortes. Et enfin, le chrétien né de nouveau ressemble pas ni à la poule, ni au vautour, mais il ressemble à l'aigle. L'aigle va au-delà des intempéries. L'aigle vole au-dessus, parce que ses ailes sont tellement fortes que l'aigle peut traverser les tempêtes sans problème. Et l'aigle regarde de loin. Et quand il vient sur la terre, ce n'est pas pour se poser. C'est tout juste pour venir prendre un animal, un lapin ou quelque chose, et puis il remonte. Alors, donc, frères et sœurs, la plupart des chrétiens n'ont jamais volé. Ils ont des ailes, mais ils n'arrivent pas à voler spirituellement. Et comme votre pasteur vous l'a dit le dimanche passé, le modèle même, c'est la colombe, qui non seulement représente le type du chrétien rempli du Saint-Esprit, et qui vit dans la pureté, qui vit dans la victoire, et qui s'envole, et qui est très doux, et qui donne la direction donc aux autres oiseaux. Alors, si nous lisons le livre des Romains, Romains 12, verset 2, nous voulons parler donc de la conversion à la transformation. Romains 12, verset 2, il y a ce qu'on appelle la prédication. La prédication est une démonstration de ce que vous dites et tout. Et il y a ce qu'on appelle l'enseignement. L'enseignement a pour rôle de prendre un homme à un niveau A. Après l'enseignement, vous l'amenez au niveau B. Il a évolué. La prédication ne vous fait pas évoluer. La prédication vous démontre que Jésus est puissant, il est vivant, il guérit les gens. Mais ça ne vous change pas. C'est l'enseignement qui vous transforme. Par l'enseignement ne vous donne pas des informations. L'enseignement vous communique des connaissances. L'enseignement élève votre intelligence. Et l'enseignement vous donne le how, le comment mettre en exergue ce que vous avez reçu. Donc, la connaissance, ça c'est l'enseignement. La clé de l'enseignement, c'est la sagesse. La sagesse qui vous dit, vous avez eu cette vérité, comment l'appliquer? Par exemple, on dit Jean 8, verset 31-32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Beaucoup de chrétiens connaissent ce verset-là, mais ils ne sont pas affranchis. Ils ne sont pas libérés. Ils ne savent pas le comment. Et dans la connaissance, il y a plusieurs niveaux de connaissance. Il y a le premier niveau de connaissance, qui est la connaissance gnoxis, qui est la connaissance de ce monde-là. La deuxième connaissance, c'est la connaissance gynosko, en grec. Gynosko, c'est la connaissance acquise par l'information que je reçois de quelqu'un. Et ensuite, il y a la connaissance epignosis, qui est la connaissance parfaite, qui vient par la révélation. Personne ne m'a dit, mais quand je vois, il y a un discernement, il y a une révélation qui vient à moi, et au-dessus de tout cela, il y a la connaissance epignosko qui vient du Saint-Esprit. Et tout ça se trouve dans la Bible. Mais en français, quand on lit, on ne voit pas, on ne voit qu'un seul mot, connaissance, connaissance, connaissance. Alors que quand Jésus parlait, il utilisait des mots précis. C'est comme amour. On lit amour, 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 alors qu'il y a des moments, on entend de parler simplement de Eros. Il y a des moments où on parle seulement de philéo, il y a des moments où on parle de agapao. Alors, dans ce passage de Romains 12, quand nous regardons attentivement ce que la Bible nous dit, au verset 2, Paul dit, il parle aux chrétiens, à des gens qui sont déjà convertis, et dont nous avons vu hier, au chapitre 1, et dans les premiers versets, que leur foi est renommée dans le monde entier. Leur foi est renommée. Mais pourtant, ici, il leur dit, bien que leur foi soit renommée dans le monde entier, bien qu'ils fassent des exploits, il dit ici maintenant, ne vous conformez pas, ne vous moulez pas dans le moule du siècle présent, dans le système de ce monde-là. Ne soyez pas conformes. Ne vous conformez pas. C'est composé de deux mots, former et con. Et ensuite, mais, soyez transformé, vous voyez bien, conformé, transformé. Transformé veut dire simplement métamorphose. Morphose, c'est la forme, méta, c'est le changement. Soyez quoi? Métamorphosé. Soyez transfiguré, comme Jésus a été transfiguré sur la montagne de la transfiguration, même racine grecque. Métamorphose. Soyez métamorphosé par quoi? par le renouvellement de l'intelligence. Quel est le but de la transformation? Le but de la transformation se trouve à la fin du verset, afin que, qu'est-ce qui se passe? Vous puissiez discerner quelle est la volonté de Dieu. Et dans cette volonté de Dieu, il y a trois niveaux. Ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Dans la volonté de Dieu, il y a la volonté pour les petits-enfants, c'est ce qui est bon, ils aiment les bonbons. Quand ils viennent à Dieu, donne-moi ça, ils connaissent la volonté de Dieu. Dieu guérit les gens, donne-moi la guérison. Dieu bénit les gens, donne-moi la bénédiction. Dieu donne des voitures, donne-moi la voiture. Ça, c'est le premier niveau pour les petits-enfants charnels. Le deuxième niveau pour les jeunes gens, ceux qui sont mûrs, c'est ce qui est agréable. Ils ne demandent pas ce qui est bon pour eux. Ils demandent ce qui plaît à Dieu, ce qui est agréable au cœur du Père. Et pour les pères maintenant, ceux qui sont affermis, et ils font ce qui est parfait. Alors, vous ne pouvez pas évoluer dans ce sens-là, dans la volonté de Dieu. Vous ne pouvez pas évoluer du bon au parfait sans être transformé au préalable. Pourquoi tant de chrétiens jeûnent et prient cherchant la volonté de Dieu? Ils cherchent la volonté de Dieu dans la chair. Ils cherchent la volonté de Dieu dans l'âme. La volonté de Dieu ne se trouve pas dans l'âme non renouvelée. Elle se trouve, frères et sœurs, dans l'âme qui a été restaurée, dans l'âme qui a été renouvelée. Cette âme est en connexion avec l'esprit maintenant qui est régénéré. Et en ce moment, on commence à connaître ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Un mécanisme. Demain qu'il y a un mécanisme naturel pour que je grandisse. Cet enfant qui est né, il est transformé naturellement. Dieu est l'auteur du négatif. Et Dieu est l'auteur du naturel et du spirituel. Et les deux vont parallèlement. Le naturel et le spirituel sont parallèles. Alors, si vous regardez un enfant qui est transformé, qu'est-ce qu'il a transformé? Regardez ce bébé qui est né. Regardez ses traits qui commencent à s'affermir. Regardez son caractère qui commence à s'affermir. Regardez la transformation naturelle, biologique, physique de cet enfant-là. Vous êtes émerveillé par cette transformation. Il en est de même de l'enfant spirituel qui est né. Sur le plan spirituel. Si votre enfant naît aujourd'hui physiquement, et cet enfant, au bout de 5 ans, il est toujours le même, vous serez inquiet, madame. Vous serez inquiet, parce que ça ne va pas. Mais si l'enfant, le chrétien est né, au bout de 5 ans, il est le même, personne ne s'inquiète. On dit c'est normal, c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Dieu étant l'auteur du naturel et du spirituel, le naturel et le spirituel étant parallèle, alors il faut voir, si tu veux connaître comment Dieu fonctionne, regarde d'abord le naturel et transpose ça sur le spirituel et tu vois, le Saint-Esprit va te montrer comment évoluer dans le spirituel. Donc Dieu nous dit ici, c'est le premier élément, on voit le mot transformé dans ce passage. Le mot transformé se trouve ailleurs encore dans 2 Corinthiens 3. Après Romains, nous avons 1 Corinthiens, 2 Corinthiens 3. On trouve ce même mot-là maintenant. Un autre aspect va intervenir à ce niveau. Un autre élément va intervenir. 2 Corinthiens 3, au verset 18. Paul parle à ses Corinthiens. Il nous dit, comme on l'a vu hier, il dit aux Corinthiens qui avaient tous les dons, il dit maintenant, nous tous, qui? Le visage découvert, c'est-à-dire ceux qui ont eu la révélation de Christ, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Donc, la transformation se fait par deux éléments principaux, la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Il faut la combinaison des deux. La parole de Dieu et le Saint-Esprit. Mon intelligence est renouvelée par la parole et quand la parole de Dieu renouvelle mon intelligence amène la transformation de mon âme et mon âme s'aligne sur mon esprit. Et en ce moment, le Saint-Esprit qui loge dans mon esprit, alors qui est en union avec mon esprit, commence une transformation radicale de tout mon être. Et ma vie chrétienne commence à être une vie équilibrée. Ma vie chrétienne n'est plus une vie de haut et de bas. N'est plus une vie chrétienne de montagne russe. Aujourd'hui, je suis sur la montagne, demain je suis dans la vallée. Alors mon frère, ça va, ça ira. Non, un chrétien ne dit pas ça ira, ça va par la grâce de Dieu. même si ça ne, même si extérieurement les choses ne vont pas, par la grâce de Dieu, ça va. Bien-aimés frères et sœurs, quand nous regardons ces choses-là, nous commençons, nous avons dit de la conversion à la transformation. La conversion consiste en quoi? La conversion, c'est un mot populaire que nous utilisons. Mais ça encore, on ne va pas débattre de cela. Parce que Jésus n'a pas parlé, quand il a parlé de conversion, il a uni le mot conversion et petits-enfants. Chaque fois que Jésus utilise le mot conversion, il dit, si vous ne vous convertissez comme des petits-enfants, mais notre langage populaire, on va utiliser conversion. Sinon, le mot exact, c'est la nouvelle création, kénostisis, en grec. Kénostisis. Kénos, c'est renouvellement nouveau. Tisis, c'est création. Que Jésus a utilisé. C'est ce qu'il a utilisé avec Nicodème, ce qu'il a utilisé plus tard avec la Samaritaine et tout. Donc, si nous ne comprenons pas les mots exacts de la Bible, alors, nous sommes à côté. Si nous confondons les mots, nous faisons une confusion à notre niveau. Nous ne comprenons pas de quoi il parle. La Bible dit ici que dans Jean 3, quand Jésus a rencontré Nicodème, écoutez frères et sœurs, il a rencontré Nicodème et Jésus l'a appelé le docteur d'Israël. Le docteur de tout Israël. L'enseignant des enseignants. Et Jésus nous parle de la nouvelle création, de la nouvelle naissance. Nicodème ne comprend pas. Alors Jésus dit, mais si tu ne comprends pas la nouvelle naissance, tu es le docteur d'Israël. Alors, et ceux qui sont enseignés par toi, qu'est-ce qu'ils vont faire? Si le professeur ne comprend pas la nouvelle création, comment les élèves vont comprendre? Il a dit deux choses. La nouvelle création et la parabole du semeur. Jésus utilise les deux mots, comprendre. Pour la parabole du semeur, quand il parlait de la parabole du semeur, qui est la première des paraboles qu'on doit comprendre pour la vie chrétienne, quand il a pris ses disciples en aparté, quand il les a pris en secret, les disciples ont dit, mais pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur dit, si quelqu'un ne comprend pas la parole du royaume, le diable vient et retire même ce qu'il a reçu. Je voudrais que cette semaine, nous ouvrons nos cœurs simplement pour voir. Nous ne sommes pas. Et je rends grâce à Dieu pour l'inspiration que vos pasteurs ont eue pour le jeûne, la prière de jeûne. C'est une semaine de retraite spirituelle individuelle et familiale ou collective. Nous venons pour recevoir. Nous allons dans la prière, dans la présence de Dieu, nous crions à Dieu et nous venons recevoir la parole. Et les deux combinés, ça transforme notre vie. Jésus dit à Nicodème dans Jean 3, et il dit ceci à Nicodème, quand nous regardons attentivement, il parle de quelque chose qui est en train de se passer. Il dit à Nicodème, et dans ce verset, et il dit, si un homme ne naît d'eau et d'Esprit Saint, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire, le royaume est arrivé. Jean-Baptiste l'a annoncé. Jean-Baptiste est arrivé à la porte du royaume, il n'est jamais rentré. Et Jésus dit maintenant, le royaume qu'il a annoncé, qu'il a proclamé, est là. Et il dit à Nicodème, le docteur d'Israël, le prophète a annoncé le royaume. Le docteur, regardez bien, le prophète, le grand prophète Jean-Baptiste, a annoncé le royaume. Il ne le connaît pas. Il ne sait pas comment ça fonctionne. Il n'est pas né là-dedans. Il ne comprend même pas. Il a annoncé simplement. Et le docteur d'Israël vient plus tard. Le prophète vient, le docteur vient. Aucun ne comprend ce que Jésus dit. Aucun. En Israël, personne ne comprenait la nouvelle naissance. Ni le prophète qui l'a annoncé, ni le docteur qui vient. Jésus lui dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer. Alors, s'il ne peut pas rentrer, il ne peut pas fonctionner. Parce que plus loin, il avait dit, si quelqu'un ne naît pas de nouveau, il ne peut pas voir le royaume. C'est-à-dire, il ne peut pas comprendre. Le mot voir ici, ce n'est pas voir physique. C'est la compréhension spirituelle. C'est le mot grec qui est utilisé encore. La compréhension spirituelle. Il ne comprend pas comment ça fonctionne. Il va en faire une dénomination. Il va en faire une religion. Oh non, le christianisme n'est pas une religion. Ce n'est pas une dénomination. C'est une vie. C'est un royaume qui est venu par quelqu'un. Et Jésus dit à Nicodème, alors, ce qui est né de la chair, Nicodème, comprend les principes. Comprend qu'il y a deux dimensions dans la vie des hommes sur la terre. Il dit Nicodème, ce qui est né de la chair restera chair, marchera dans la chair, sera inspiré par la chair. Mais Nicodème comprend, ce qui est né de l'esprit est d'abord esprit, n'a pas l'esprit, est esprit. Sa nature, c'est esprit. Il a la même substance que Dieu. Le petit d'un cheval, c'est un cheval. Le petit d'un âne, c'est un ânon, c'est un âne. Et tout enfant qui est né de Dieu est dans la divinité. Il a la nature divine, il est participant de la nature divine. C'est ce que les chrétiens ne voulaient pas comprendre. Ils acceptent. L'enfant d'un homme, c'est un quoi? C'est un homme. Jésus vous montre là les deux. Ce qui est né de la chair est chair, restera chair, mourra chair, marchera chair, vivra chair. Ce qui est né de l'esprit est d'abord esprit, n'a pas l'esprit. Car ma vraie personne, c'est l'esprit. Ma personnalité, c'est mon âme. Et mon corps n'est que mon enveloppe. C'est pourquoi quand quelqu'un meurt, on dit qu'il est parti. Alors, son corps est là. Pourquoi on dit qu'il est parti? Qui est parti alors? Son corps est toujours là, bien habillé, avec cravate. Et vous dites qu'il est parti. Pourquoi? Qui est parti? Quand Jésus est mort à la croix, il a remis quoi à Dieu? L'esprit ou l'âme? Non, l'esprit, pas l'âme. L'âme est partie dans les enfers, l'esprit est remonté. Et le corps, écoutez les trois dimensions de Jésus, son corps est allé dans le tombeau de Joseph d'Arimathée, son âme est allée dans les enfers, son esprit est retourné à Dieu, car l'esprit vient de Dieu, c'est immortel, ça ne peut pas mourir. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. C'est l'âme qui meurt, pas mon autre esprit. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. S'il y a cette confusion dans votre vie, vous ne pouvez pas vaincre. Si vous confondez l'esprit et l'âme, vous avez des problèmes. Au moins, vous devez fonctionner par l'esprit, vous fonctionnez par votre âme, vous serez blessé. Quand on vous rejette, vous êtes blessé. Beaucoup de chrétiens vivent selon l'âme. Beaucoup de femmes vivent selon l'âme. Quand le mari fait quelque chose, c'est fini. Elle s'enferme sur elle-même. Le chrétien vit selon son esprit. Mais s'il ne connaît pas ce processus-là, il ne sait pas comment vivre. Alors, bien-aimés frères et sœurs, c'est important. La vraie libération vient de l'enseignement, de la conversion. Ce n'est pas les démons. Beaucoup de chrétiens n'ont pas de démons, mais ils vivent très mal. Ils vivent dans la défaite, parce qu'ils vivent selon leur âme. Et l'âme rend prisonnier l'esprit, qui est né de nouveau. Alors, si nous regardons tout cela, mon esprit est d'abord régénéré. Mon esprit, quand il est régénéré, alors je veux commencer à comprendre, le royaume de Dieu. Car c'est mon esprit qui est en relation avec Dieu. Ce n'est pas mon âme, ni mon corps. Très souvent, malheureusement, la plupart de nos chants sont basés sur notre âme. Nous sentons la présence de Dieu. Et c'est pourquoi quand les gens quittent, il suffit que quelqu'un soit sous un ventilo, quand l'air frais tourne, il dit, mais la présence de Dieu était dans l'église aujourd'hui. Ce n'est pas la présence de Dieu, c'est le ventilo qui a tourné. Ou bien quand ils viennent, ils trouvent le chanteur qu'ils aiment dans l'église, dans la chorale, ils trouvent le dimanche, ils trouvent le chanteur qu'ils aiment beaucoup, celui qui chante bien, les chants qu'eux ils aiment, ils disent le culte était vivant. Et le dimanche prochain, quand ils viennent, ils trouvent celui qui ne chante pas bien, ils disent le culte était mort. La plupart des chrétiens, quand on dit église vivante, c'est basé sur quoi? Sur les chorales, sur la musique. L'église est vivante, non pas sur les chorales et choses. C'est pas vrai ça. Ça, c'est du mensonge. La plupart du temps, c'est que si elle est vivante, pourquoi quand vous sortez, vous mourrez? L'église vivante n'est pas due à une chorale bien organisée, n'est pas due à ça. C'est l'animation de chrétiens le dimanche. Il est tout le temps dit à nos choristes et à nos chanteurs, il dit, ne vous vantez pas comme si aujourd'hui on vous a applaudi. Il dit, mais toutes les salles de concert, on applaudit les chanteurs, non? Tous les concerts, vous savez, là même le monde sait cela. Qu'est-ce que la musique fait? La musique adoucit les mœurs. N'importe quelle musique adoucit les mœurs. N'importe quelle, c'est pas la musique chrétienne. Hein? Quand nous étions jeunes, et Mike Brandt, quand il chantait, Mike Brandt, quand ils chantaient, les jeunes filles ils roulaient à terre sous l'onction. Mais ceux de ma génération, qui entendaient parler de Mike Brandt? Alors, il remplissait, il chantait, mais pourquoi il est parti se suicider? Pourquoi il est mort bêtement? Donc faites attention. Toute musique a une onction. Toute musique. Toute musique fait bouger même les gens les plus durs. Et vous voyez, tape leurs pieds, tac. C'est comme ça. La musique a ce pouvoir-là. Faites attention de dire que l'église est vivante parce qu'il y a la bonne musique. Parce que vous allez au concert de Johnny Hallyday, c'est vivant aussi, non? Mais au stade, quand les gens vont là-bas, ils ne crient pas? Ils ne crient pas? Quand ils chantent, hein? Souvenir, 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 souvenir. Quand ils chantent, tout le monde twiste. C'est ça, mon frère. Donc, ne dites pas que parce qu'il y a telle chose, telle église est vivante. Faites attention. Votre âme agit beaucoup plus que votre esprit. Votre âme s'empare des choses. Et ensuite, elle est blessée vite. L'âme est facilement blessée. Et quand elle est blessée, elle s'enferme. Si vous ne procédez pas selon la priorité de Dieu, vous avez des problèmes. 1 Thessaloniciens 5, verset 23, nous montre quelque chose d'important. 1 Thessaloniciens 5, verset 23, Paul parle aux Thessaloniciens et il dit ceci. Il prie et il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible. Dieu vous sanctifie. Qu'est-ce que ça veut dire sanctification? Dieu vous met à part. Votre être tout entier. Il le met à part. Mais comment? En séparant clairement votre esprit, votre âme et votre corps. Quand on parle dans la Bible, on ne parle pas du corps, de l'âme et de l'esprit. La Bible dit toujours esprit, c'est ce que nous sommes. Âme, c'est ce que nous avons. Corps, c'est ce qui est l'enveloppe. Esprit, âme et corps. Pour qu'il soit conservé, conservé, irrépréhensible. Alors, notre être est composé de trois. Toute personne née de nouveau, esprit, âme et corps. Et s'il n'est pas conservé, irrépréhensible, cette personne a des problèmes. Cette personne a des problèmes. Et l'un des épîtres que les gens ont utilisé à tort pour parler de prospérité financière se trouve dans 3 Jean, tout juste avant Apocalypse. Apocalypse 3, Jean 2. Les gens ont utilisé ça, ce verset-là, pour parler de prospérité financière. Non, ce n'est pas de ça qu'on parle. Jean, 3 Jean 2. Il est écrit dans ce passage, 3 Jean, 3e épître de Jean, verset 2. Il n'y a qu'un seul chapitre. Il est bien-aimé. Je souhaite que tu prospères à tous égards, dans tous les domaines, et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Alors, si mon âme ne prospère pas, ma santé a des problèmes. La plupart des maladies aujourd'hui ne viennent pas des virus, viennent de l'état de votre âme. Votre âme qui est blessée en permanence, ça jaillit, ça amène des stress, ça amène toutes sortes de maladies dans votre corps. Et Jean dit ici à Gaius, il dit, ce que je veux, Gaius et Gaius, que tu comprennes, que l'homme est esprit, âme et corps, et que tu dois prospérer, c'est-à-dire, tu dois être dans un bien-être, tu dois avoir une harmonie avec ton esprit, ton âme et ton corps. De telle manière, cela va t'apporter la bonne santé pour ton corps, et ton âme va prospérer dans le repos, dans la restauration, et tout ton être va fonctionner en harmonie. Voilà les deux passages. Voilà la volonté de Dieu. Que tout mon être soit irrépréhensible et que tout mon être prospère et que, avec des résultats, la bonne santé pour mon corps, beaucoup de chrétiens sont malades. Pourquoi? On leur impose les mains. L'imposition des mains, c'est facile pour les païens. Quand on impose les mains pour un cancéreux non chrétien, parce que Dieu fait grâce. Mais souvent, il y a des maladies que les chrétiens traînent à cause de leur âme qui est malade. Et c'est ça qui crée des problèmes. Et si tant que l'âme n'est pas guérie, tant que l'âme n'est pas restaurée, la source de la maladie, c'est elle qu'on doit combattre, pas les effets de la maladie, pas les symptômes de la maladie. Quand la Bible dit « par ses meurtres vous êtes guéris », on ne parle pas des effets de la maladie, on parle de la racine de la maladie. Quand la racine de la maladie du chrétien, pourquoi les chrétiens sont-ils malades aujourd'hui? Au temps de Jacques, Jacques dit « s'il y a un seul qui est malade parmi vous, qu'il appelle les anciens ». Aujourd'hui, si on dit « s'il y a un seul qui est en bonne santé, levez-vous », tous les chrétiens sont malades. Il y a des gens qui jouent au courageux, font semblant comme s'ils ne sont pas malades, mais ils sont malades. La maladie a plusieurs niveaux. Frère, n'essayons pas de cacher les choses. Soyons vrais avec Dieu. Soyons tout le temps vrais avec Dieu. Soyez tout le temps vrais avec Dieu. De toute manière, vous ne pourriez rien lui cacher. Et si vous n'êtes pas vrai avec lui, il vous regardera, il ne fera rien. Dieu ne se mêle pas de la vie des gens. Jésus a dit à l'église de Laodicée, je frappe, si vous m'ouvrez, je rentre. Tant que vous ne m'ouvrez pas, je n'entrerai pas. Vous ne pouvez pas dire à Dieu, fais ce que tu veux, Dieu ne fera rien. Ces prières-là, ça ne marche pas. Dieu n'a qu'à faire ce qu'il veut. Pourquoi? Dieu va vous violer. Vous voulez que Dieu vous viole? Il vous a donné la volonté. Dieu voyait Adam et Ève en train de manger le fruit. Il n'a pas intervenu. Dieu le voyait. Quand Ève a pris le fruit, Dieu avait déjà fini de parler. Quand Ève a mangé, et qu'Ève a donné le fruit à Adam, Adam savait ce qu'il faisait. C'est pourquoi on n'a pas dit qu'Ève a péché. Ève a été séduite. On dit que c'est Adam qui a péché. Pourquoi la Bible dit Adam a péché? C'est pas Ève qui a péché. On dit Adam a été, Ève a été séduite. Mais Adam a péché. Parce qu'Adam a pris le fruit. Il savait de quoi cela retourne. Il a mangé le fruit volontairement. Et il a péché. Vous savez ce que vous faites. Ne me dites pas que c'est le diable. Le diable n'a jamais pris la mère de quelqu'un pour voler. Le diable n'a jamais pris votre bouche pour détruire votre corps avec la cigarette. Ce sont ces deux doigts-là qui prennent la cigarette et qui mettent à la bouche. Si Dieu voulait que vous fumiez, il allait mettre une fumée sur votre tête. Dieu allait mettre une fumée là, ça allait sortir. Quand vous mettez du feu dans vos maisons, il y a une fumée, non? Hein? Il y a une cheminée? Il y a une cheminée, la fumée sort par là-bas. Vous savez bien que la fumée, écoutez-moi, la fumée qui est dans votre maison en hiver, la fumée, si vous la laissez, toute la famille est détruite, oui ou non? Alors si vous êtes intelligent, si vous savez bien que s'il n'y a pas de cheminée pour dégager la fumée, toute la famille sera empoisonnée. Et vous mettez volontairement la fumée de la cigarette dans votre corps et vous ne voulez pas être détruit. Il faut être insensé. Réfléchissez, vous êtes intelligent. Pourquoi vous ne ferez pas vos cheminées en hiver? Pourquoi vous laissez la fumée partir? Vous ne voulez pas que votre famille soit empoisonnée. Et vous pensez qu'en mettant la cigarette dans votre corps, la Bible dit, ne détruis pas ton temple, le temple où je suis. Vous avez la volonté, vous avez le pouvoir. Vous savez, souvent nous ne voulons pas parler clairement aux gens. Et on les écoute. Je ne voudrais pas qu'un jour, Dieu me montre cette assemblée-là, en vision, quand j'irai au ciel, et dit, mais tu ne leur as pas dit la vérité. À cause de cela, telle personne est morte à cause de toi. Je ne te connais pas. Infidèle serviteur, éloigne-toi de moi. Je ne veux pas être responsable de cela. Je vais vous dire la vérité, quitte à ce que vous preniez, quitte à ce que vous refusez, ça c'est votre volonté. Vous êtes libre. Vous êtes libre. Alors donc, bien-aimés frères et sœurs, vous voyez là, alors on va attaquer mon esprit. Si tes unités sont finies, c'est bien. Je parle des unités de l'autre. Ok. Parlons maintenant de notre esprit. Mon esprit, c'est l'homme intérieur. On l'appelle l'homme intérieur. On l'appelle aussi mon cœur. On ne parle pas du cœur physique qui pompe le sang. On l'appelle aussi, c'est ma vraie personne. C'est là où Dieu habite. Déjà dans Ézéchiel 36, le prophète avait déjà prophétisé que Dieu fera une nouvelle alliance. Et il nous donnera un esprit nouveau, un cœur nouveau. Et que son esprit viendra habiter dans notre esprit. Et quand son esprit viendra habiter dans notre esprit, il fera de telle manière que nous obéissons à la parole de Dieu. Ézéchiel 36, verset 26 et suite. Et ce jour est arrivé avec donc la résurrection de Christ, avec la Pentecôte. Alors, le Saint-Esprit est descendu. Et le nouveau régime vient de commencer. Les hommes qui étaient morts spirituellement, les hommes qui étaient liés à l'identité de Satan, ont commencé à recevoir Christ Jésus comme Sauveur et Seigneur. Et la chose la plus extraordinaire, c'est que leur esprit qui était mort est revenu à la vie. Éphésiens 2 nous le dit. Nous sommes ressuscités en nouveauté de vie. Et le Saint-Esprit de Dieu est venu habiter dans notre esprit. 1 Corinthiens 6, 17 dit que notre esprit et le Saint-Esprit se sont tellement unis maintenant qu'ils sont devenus un seul esprit. Dieu est revenu là où il avait commencé. Dieu est revenu dans sa maison. Dieu est venu habiter dans sa maison. Et quand on dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit, comprenez ce que ça veut dire. La maison de Samuel Peter Smith, quand vous allez chez lui, vous pouvez montrer, voici la maison de Samuel Peter Smith, mais si vous entrez chez lui, il ne loge pas dans la véranda. Dans sa maison, il y a plusieurs chambres là. La chambre la plus intime, c'est la chambre à coucher. Quand on dit que Dieu est notre corps et le temple du Saint-Esprit, il parle de quoi? Il parle de la maison générale de Dieu. Mais dans quelle partie Dieu habite? C'est pas dans mon corps, dans mes muscles, c'est pas dans mon âme, c'est dans mon esprit. C'est le lieu secret de Dieu. C'est là où il habite. Le Saint-Esprit et mon esprit deviennent un. Et quand le Saint-Esprit et mon esprit deviennent un, quelque chose d'extraordinaire se passe. Bien-aimés frères, je deviens une nouvelle création. Et ce verset a trompé beaucoup de gens. Quand on dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. On ne parle pas de votre âme ni de votre corps. On parle de votre esprit, s'il vous plaît. Quand vous êtes naissé de nouveau, si vous avez des oreilles de lapin, vous aurez le lendemain, vous aurez des oreilles de lapin. Ça ne change pas, ça. Si vous êtes noir, 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 comme moi, vous ne deviendrez pas blanc par la nouvelle naissance. On ne parle pas de votre corps ni de votre âme. On parle de votre esprit. Si vous étiez patapouf, votre nouvelle naissance, vous resterez patapouf. Vous ne perdez même pas un gramme. Vous restez patapouf. C'est la discipline du corps qui va vous faire, qui va transformer votre corps. Les gens ne comprennent pas. Ils disent, ah, mais si quelqu'un est en Christ, mais pourquoi Dieu, le pasteur, donc vous avez menti. Le pasteur n'a pas menti. Si quelqu'un est en Christ, on dit en Christ. Christ, ça veut dire quoi? L'Esprit Tout-Puissant. On n'a pas dit Jésus. On n'a pas dit que quelqu'un... Jésus, c'est le physique. Christ, c'est l'autre. Christ n'est pas le prénom de Jésus. Christ est la dimension supérieure. Pierre dit dans sa prédication, le jour de la Pentecôte, acte 2, il dit, c'est Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a fait, Seigneur et Christ. On n'a pas, c'est pas un prénom, c'est une dimension. Une dimension, Christ c'est lui qui envoie le Saint-Esprit. Christ, c'est la dimension spirituelle, supérieure, où Christ il règne dans le ciel. C'est pourquoi dans les épîtres, Paul ne parle jamais de Jésus. Il dit, si vous avez connu Jésus dans la chair, on ne le connaît plus comme cela. Quand il dit le mot Jésus, il dit tout le temps Jésus, Christ. Ce n'était tout le temps Christ. Alors, mon esprit est né de nouveau. Mon esprit est régénéré. Le Saint-Esprit vient habiter dans mon esprit. Pourquoi? Quand il vient habiter en moi, il amène la nature divine. Hein? Et la nature divine, c'est quoi? C'est l'amour. Dieu est amour. Il répand l'amour en moi. Romains 5, 5. Ce n'est pas fini. La foi vient en moi, qui est un don. Ensuite quoi? La sagesse de Dieu vient en moi. Qu'est-ce qui vient encore? L'espérance de Dieu. Les trois choses qui demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, viennent, c'est la nature de Dieu, viennent en moi. Quoi encore? Et de cet amour-là, le fruit de l'esprit, je deviens, mon esprit devient une branche de l'arbre de vie qui est Jésus. Jean 15, verset 5. Mon esprit, pas mon corps, devient, mon esprit devient la branche du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit produit le fruit de l'esprit. Et mon esprit montre maintenant au monde le fruit de l'esprit. Mon esprit commence parce que je laisse mon âme, quand on va le voir étudier demain après demain, quand mon âme sera transformée, ce qui est en moi, l'amour, la joie, la paix, commence à sortir et les gens commencent à voir dans ma vie le fruit de l'esprit. Mais c'est mon âme qui est ma personnalité, qui est mon ennemi principal dans le processus de la transformation. Elle refuse de changer parce qu'elle a été habituée aux anciens sentiers battus. Elle a été habituée à réagir comme ça. Elle a été habituée à avoir sa personnalité. Et chacun dit, non, je suis né comme ça, je suis comme ça. Voilà le langage des chrétiens. C'est pourquoi ils ne changent pas. Ah non, c'est comme ça. Tu me prends, tu me laisses. Tu me prends comme ça. Non, on peut te prendre comme ça. Si tu n'es pas transformé, tu vas créer un problème à ton mari. Tu vas créer un problème à ta femme. Un chrétien non transformé va être une source de douleur et de frustration pour son épouse ou pour son époux. Obligatoirement. Il y aura un combat de l'âme. Le combat de l'âme, c'est le combat le plus infernal que les chrétiens peuvent avoir dans leur famille. Deux chrétiens viennent le dimanche ensemble, mais ils sont assis côte à côte. Mais il y a une haine dans l'âme de l'un et de l'autre, pas dans leur esprit. Leur esprit est immortel. L'esprit est né de nouveau. Leur esprit est né, mais leur âme est habitée par des choses les plus terribles. Ils dorment dans le même lit, mais ils ne peuvent pas s'entendre. Pourquoi? Parce que leur âme est malade. Leur âme est malade. Il y a la haine. Il y a le gémissement, il y a l'abattement. Même Jésus dit, mon âme est abattue jusqu'à la mort. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Demain, après demain, on verra comment transformer l'âme. L'âme, c'est la vanne, c'est la vanne. Tout ce qui est contenu dans mon esprit, les bonnes choses, ne peut pas passer pour toucher mon corps et le dehors, parce que la vanne du robinet n'est pas ouverte. Et la vanne, c'est mon âme qui empêche les flots divins dans mon esprit de couler pour atteindre les autres. Ça empêche l'amour de se manifester. Qu'est-ce que l'amour? 1 Corinthiens 13 dit, c'est la patience, l'amour est patient, l'amour excuse tout, l'amour croit tout, l'amour espère tout. Vous voyez bien? Le fruit de l'esprit dans Galates 5, 22 et 1 Corinthiens 13, 4, c'est la même chose. C'est l'amour, c'est ce qu'on dit, le fruit de l'esprit, on appelle les fruits. Beaucoup de Bibles ont dit les fruits, c'est faux. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. De l'amour sort la joie. De la joie sort la paix. De la paix sort la patience. De la patience sort. Et si vous regardez 1 Corinthiens 13, vous allez trouver la même chose. Patience, espérance, victoire, tout. Cela est en vous. Mais votre âme l'empêche. Mais pourquoi un homme et sa femme s'asseyent? Il dit, mais pourtant nous nous aimons. Vous vous aimez, vous voulez divorcer? Vous vous aimez de quel amour? Quel amour? L'amour ne faillit pas. L'amour ne divorce pas. L'amour agapao ne peut pas divorcer. Il n'a pas le pouvoir d'échouer. L'amour agapao, c'est l'amour de Dieu. Il a tant aimé le monde qu'il a haï. Le monde qu'il a rejeté. Cet amour est venu plusieurs fois. Il t'a poursuivi pendant des années. Jusqu'à ce qu'il t'attrape. Tu deviens son enfant. Tu l'as haï, tu l'as repoussé, tu l'as rejeté. Mais l'amour de Dieu n'échoue jamais. Et c'est cet amour que Dieu a mis dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Pour que la femme et l'homme n'échouent jamais. Et que dans l'église, il n'y ait pas un échec. Que les gens puissent s'aimer dans l'église. C'est cet amour-là. Oh, Kabashinda. Oh, Kabashikek. Il y a quelque chose d'important qui se passe ici. Si vous saisissez ça, votre vie est transformée pour toujours. Je vous assure, quelque chose, la grâce de Dieu, la gloire de Dieu habite dans votre esprit. Et vous commencez à réaliser que la vie chrétienne, ce n'est pas des activités, ce n'est pas des programmes. C'est Dieu en vous, Christ, la gloire de Dieu. Je vois tant de gens souffrir, tant de couples souffrir parce qu'ils n'arrivent pas à dépasser leur âme. Dans mon esprit, il y a les richesses. Ces richesses-là sont enfouies. C'est la parole de Dieu qui vous montre les richesses, pas vos sentiments. Bien-aimés frères et sœurs, et l'esprit est nourri par quoi? Si on regarde le Proverbe 20, verset 27, Proverbe 20, verset 27, il dit que le souffle de l'homme ou l'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. Et Dieu, notre esprit est la lampe de Dieu. Et cette lampe-là éclaire jusque dans les entrailles. Donc Dieu utilise notre esprit pour nous éclairer. Dieu utilise notre esprit pour nous éclairer. Et à cause de cela, maintenant mon esprit est nourri. Mon esprit est nourri. Quelle est la nourriture de la parole de mon esprit? Mon esprit est nourri par la parole de Dieu. Jésus dit à Satan dans Matthieu 4:4, il dit l'homme Satan a tu ne comprends pas l'homme Satan, tu ne comprends pas la nouvelle création parce que c'est la chose qui a été gardée secrète que toi tu n'es pas au courant. Satan se disait mais pourquoi Dieu a créé l'homme? Pourquoi Dieu veut recréer l'homme? Et Jésus dit à Satan, l'homme ne vivra pas seulement de pain. C'est-à-dire que l'homme n'est pas seulement que corps pour vivre de pain naturel, pour vivre de nourriture. L'homme, maintenant que je vais recréer là, est esprit. Et il vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ce qui sort de la bouche de Dieu n'est pas biscuit, n'est pas Coca-Cola. Ce qui sort de la bouche de Dieu est esprit et vie. Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Il est en train de révéler la nouvelle création. Il est en train de révéler le processus de la transformation. Alors, si l'homme doit vivre de la parole qui sort de la bouche de Dieu, si mon homme intérieur, quand on parle l'homme, je ne parle pas de mon corps, ni de mon âme, si mon homme intérieur doit avoir des muscles, si mon homme intérieur doit être fort, si mon homme intérieur doit être musclé, il faut que je mange la parole de Dieu. Mais si je ferme la parole de Dieu tout le temps, comment serai-je fort? Si je joue la Bible seulement une fois par semaine, comment tu seras fort? Comment? Est-ce que tu manges une fois par semaine? Et tu manges, tu donnes à ton corps une fois par semaine la nourriture? Non. Frère, voilà la faiblesse des chrétiens. Et l'un des pièges, c'est l'ordinateur qui vous crée des problèmes. On ne peut pas avoir des relations avec l'ordinateur? Avoir sa Bible, la tenir, la mettre sur, se coucher parfois, la mettre sur sa poitrine, la toucher, c'est mieux. L'ordinateur est impersonnel. Très impersonnel. Il n'y a pas de sentiment derrière l'ordinateur. Il n'y a pas de présence de Dieu dans l'ordinateur. On dit ce qui a été écrit, on dit les Écritures. Dès que vous prenez l'ordinateur, c'est votre cerveau qui commence à travailler. Donc, mon esprit est nourri par la parole. C'est par la parole encore que mon esprit, la parole est un miroir pour mon esprit. Regarde bien dans Jacques 1, 23, rapidement. Jacques 1, 23, regarde, à ce niveau-là. 22 même, mettez en pratique la parole. Et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Vous voyez bien? Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant. Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même. Et qu'est-ce qu'il dit? Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui après s'être regardé s'en va et oublie aussitôt quel qu'il était. Verset 25 est important. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, le miroir de Dieu est appelé loi parfaite. La loi de la liberté, vous entendez? La loi parfaite, la loi qui nous libère, la loi de la liberté, c'est la parole. Et qui aura persévéré, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-ci, celui-là ou celle-là, sera heureux dans son activité. Pourquoi beaucoup de chrétiens ne sont pas heureux? Regarde le processus ici. Premièrement, ils ne mangent pas la parole de Dieu. Ils ne nourrissent pas leur homme intérieur de la parole de Dieu. Et deuxièmement, ils refusent de se mirer dans la parole, de regarder qu'est-ce que leur visage spirituel est. Le miroir naturel montre mon visage naturel. Quand je regarde le miroir naturel, je ne vois pas le visage de quelqu'un d'autre. Je vois mon vrai visage. Je vois mes défauts. Et quand le miroir dit « tu es sale », je plonge ma main dans l'eau et je me lave. Quand le miroir dit « tu es mal peigné », je prends un peigne, j'obéis au miroir. Le miroir naturel me parle tous les jours. Vous parle tous les jours et vous agissez. Alors comment un homme obéit à un miroir naturel et n'ose pas obéir au miroir de Dieu? C'est quand même quelque chose qu'il ne voit pas. Le miroir de Dieu vous dit, il y a la haine dans ton cœur, mon enfant. Tu lis la Bible, ne haïssez pas les gens. Vous fermez, vous partez. Et si vous regardez le miroir naturel, le matin, vous voyez, vous avez de la salive partout. Vos cheveux sont dépeignés, sont complètement. Et vous regardez, vous ne croyez pas au miroir naturel. Et vous allez au service. Et vos camarades vous disent, mais madame, vous n'avez pas regardé le miroir ce matin et vous dites, je ne crois pas au miroir. Vous dites, mais vous êtes insensé. Vous êtes insensé. Vous avez regardé le miroir, c'est sûr, oui, j'ai regardé le miroir. Mais moi, je ne crois pas au miroir. Je ne crois pas que ce que le miroir me reflète là est la vérité. Les gens vous diront, vous êtes insensé. Alors, la même chose avec la parole de Dieu. On dit, aime ton prochain. On dit, pardonne ton prochain. Tu lis la Bible, le miroir de Dieu. Dieu dit, ma fille, ton cœur est rempli de haine. Pardonne, tu refuses, tu fermes, tu t'en vas. Les anges, les démons disent que tu es une insensée et ils vont te traumatiser. Oui. Vous savez, je prêche, je vous regarde. Certains sont en train de refuser la parole. Même si vous la refusez, je vais mettre la pointe, je vais enfoncer. Ne vous inquiétez pas, hein, je vous regarde. Vous pouvez jouer à n'importe quel. Vous pouvez faire l'indifférent, vous pouvez faire le dur. Ce n'est pas mon problème. Je vais enfoncer le clou. C'est pour vous libérer. Vous n'allez pas continuer à fatiguer vos pasteurs ici tout le temps. Chaque année, Dieu ne priait. Pas de changement, pas de transformation. Je refuse ça. Faut qu'on commence à être clair. Quand vous allez à l'université, vous refusez d'obéir à ce que le professeur dit, on vous met au dehors. Oui ou non? Quand vous allez au service, vous refusez, on vous met au dehors. Pourquoi avec Dieu, vous voulez jouer au plus malin? Alors que Dieu nous donne tout. Tout. Gratuitement. Il nous aide. Il est venu nous aider. Il nous aime. Il veut nous transformer. Il sait que nous souffrons. Il sait que nous sommes détruits. Mais il veut nous aider, mais nous refusons. C'est dommage. Ceux qui nous exploitent, là on obéit. Celui qui veut nous aider, là on refuse. C'est dommage. Pourquoi? Par notre âme a été habituée à l'indépendance, à l'autonomie. Ma personnalité, je la couvre, je la protège. Mais elle te fait du mal. Tu la protèges pour qui? Pour toi-même. Mais elle te fait du mal. Elle te fait du mal. Bon, ça c'est mon esprit. Mon esprit est immortel, il ne pêche pas. Mon âme, qu'est-ce que mon âme? C'est ma personnalité. C'est ça, ma volonté. C'est ma conscience. C'est mes émotions, mes sentiments, ma pensée, mon intelligence. Mon âme ne naît pas de nouveau, elle ne connaît pas Dieu. L'âme ne connaît pas Dieu. L'âme connaît le monde mental et psychique. L'âme ne connaît pas Dieu. L'âme vit selon ses sentiments, selon ses humeurs. C'est pourquoi on ne peut pas toucher Dieu par mon âme. Mon âme ne peut pas toucher Dieu. La Bible dit « mon âme soupire ». Les gens de l'Ancien Testament ont utilisé des termes qu'on ne doit pas utiliser aujourd'hui. Parce que les David n'étaient pas nés de nouveau. L'âme ne connaît pas Dieu. L'âme connaît le monde psychique et le monde mental. C'est pourquoi l'âme a besoin de la restauration. Premier mot, restauration. L'âme a besoin du repos. L'âme a besoin d'un renouvellement. Et l'âme a besoin d'être prospère. Voilà les mots pour l'âme. Il a besoin d'un repos. Il a besoin de rentrer dans le repos. Pourquoi? La Bible dit que c'est l'âme qui pêche. Ézéchiel 18, verset 4, l'âme pêche. Et dans ce domaine, au niveau de l'âme, l'âme est blessée. L'âme est angoissée, elle gémit, elle est troublée. Et quand l'âme a été blessée pendant des années, elle se referme. Et l'âme se situe entre l'esprit et le corps. L'âme est l'arbitre entre l'esprit et le corps. Quand l'âme et le corps se mettent ensemble, ils combattent l'esprit. Quand l'âme est restaurée, elle se met du côté de l'esprit et en ce moment-là, mon corps devient un simple wagon qu'on entraîne. Le corps n'a plus de pouvoir. Parce que le corps est amoral, je vous ai dit. Il est amoral. Il ne sait pas choisir. Il reçoit ce qu'on lui donne. Alors c'est pourquoi l'âme est celui qui est au milieu. Tant qu'il n'est pas restauré, il crée des problèmes à mon esprit. Et il balance du côté du corps. Et il s'allie avec le corps. Elle s'allie avec le corps pour combattre mon esprit. Et j'ai une guerre intérieure en moi. Paul dit, le bien est dans mon esprit, mais je vois dans mes membres le mal qui sort. Il dit, mais malheur à moi, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Lisez bien la fin du verset. Il dit Jésus-Christ, et lisez automatiquement Romains 8, il dit, si quelqu'un est en Christ, il dit qu'il n'y a plus de condamnation pour lui, car la loi de l'esprit de vie l'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Chose impossible à la chair. Impossible à la loi de Moïse. C'est cela, mon frère. Mon âme, elle ne fonctionne pas. Si elle ne fonctionne pas correctement, elle empêche les flots divins d'atteindre le dehors. Je sais que je dois aimer les gens. Et j'en souffre. Je sais que je ne dois pas faire du mal à quelqu'un. Mais pourquoi je fais ce mal-là? Paul l'a déjà dit dans Romains 7. Mon âme me crée des problèmes. Mon âme est difficile. Et en ce moment-là, mon âme doit simplement être restaurée par la parole de Dieu. On le verra demain après demain. Et ensuite, mon corps, enfin, c'est mon enveloppe extérieure. Ce corps extérieur ne connaît pas Dieu. Ne connaît pas Dieu du tout. Il ne connaît que le monde extérieur. Avec ses cinq sens. L'ouïe. L'odorat, le goûter, le toucher et la vue. Ce sont ces cinq choses-là qui nous créent le plus de problèmes. Tous les péchés que nous avons dans ce monde-là rentrent par nos yeux, ce qu'on a vu. Ce qu'on a vu, c'est là, les péchés de l'œil. Ce qu'on a entendu. Les plaisirs du corps, ce qu'on aime toucher, ce qu'on et puis le goûter, ce qui est bon dans la bouche. C'est ça qui a fait tomber Adam et Ève. C'est la bouche. Quand Adam et Ève ont refusé la parole et ont accepté que Satan puisse exercer leur âme, ils sont descendus de la vie de l'esprit à l'esprit de l'âme. Ils vivaient selon la parole de Dieu. Et brusquement, ils ont laissé la parole de Dieu. Ils ont voulu expérimenter la vie de l'âme. La vie de l'âme et la vie du corps. Et quand ils ont voulu expérimenter cela, tout de suite, ils ont le fruit. Et Ève a dit... la Bible dit qu'Ève a vu que le fruit était bon et agréable et bon à manger. Elle n'a jamais mangé le fruit. Comment elle sait que c'est bon à manger? C'est ça la tentation. Vous n'avez jamais mangé de quelque chose et vous regardez, ça vous plaît. Vous sentez déjà des choses en vous. C'est ça le problème de l'âme et du corps. Vous n'avez jamais mangé. Elle n'a jamais mangé. Mais elle... Déjà, le goût est bon. Pourtant, elle n'a jamais mangé. Le corps. Et la Bible dit pour terminer que le corps, on a besoin de faire deux choses avec le corps. Romains 12, verset 1, de le livrer en sacrifice comme un sacrifice vivant. C'est ce qui sera un culte raisonnable. Ça, c'est Romains 12, verset 1. Et ensuite, dans 1 Thessaloniciens 4, 4, il est dit que votre corps, vous devez le serrer, vous devez le discipliner. C'est la seule chose qui intervient pour le corps. Alors, en comprenant ces trois éléments-là ce matin, demain, Dieu voulant, et après demain, on va voir maintenant comment faire fonctionner ces trois éléments-là. Comment on va amener l'âme à être transformée, à se connecter simplement à notre esprit, et comment ouvrir la vanne des choses spirituelles qui sont dans ton esprit pour que ça parte dans notre âme et touche notre corps. Et c'est pourquoi Romains 8, on dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, ce même esprit donnait la vie à votre corps mortel. C'est pourquoi je n'ai pas besoin, quand je suis malade, d'appeler un chrétien pour prier pour moi. J'ai toute la puissance de la guérison en moi déjà. Par ma bouche, par ma parole. C'est pourquoi David dit à son âme, on le verra. Pourquoi ces expressions? Quand David dit, mon âme bénit le Seigneur. Il ordonne à son âme de bénir le Seigneur. Pourquoi il dit cela? Pourquoi Jésus parle de son âme? Pourquoi? Quand nous allons comprendre cela, on va voir que l'âme doit être commandée. L'âme, on doit ordonner à l'âme. On doit dire à l'âme ce qu'elle doit faire. Ce sont des choses qu'on laisse de côté et ensuite on a des problèmes. Bien-aimés frères et sœurs, je vais m'arrêter là ce matin et ce midi. Et demain, on va continuer de la conversion à la transformation. Mais je voulais introduire le premier message. Que Dieu vous bénisse, sa grâce soit avec vous, au nom de Jésus. Amen.
Nous pourrions nous lever ensemble. David, tu te mets au piano, on va simplement prier et puis terminer par un chant. Que Dieu nous aide à ne pas être des auditeurs oublieux. Père, nous te bénissons pour ta parole qui, comme la pluie descend des cieux, la rose fait germer les plantes, donne de la semence au semeur et du pain à celui qui a faim. Eh bien, viens ce matin arroser nos âmes afin de produire quelque chose de nouveau. Nous sommes appelés à être des hommes nouveaux. Et si l'esprit est nouveau, le temps doit venir où l'on doit pouvoir le voir au travers de l'âme et du corps. Si l'âme et le corps ne reflètent jamais le changement intérieur reçu dans l'esprit, alors rien n'a de sens. Père, je te prie que de la même manière que cette semence qui reçoit l'humidité par la pluie, tout d'abord meurt et puis passe par cette résurrection, grandit et devient une plante différente en forme, en grandeur de la petite semence qui a été semée. Je te prie que ta parole en nous amène à réellement, comme la semence, laisser mourir ce qui est de la chair, ce qui est non régénéré, pour laisser une nouvelle créature grandir, afin qu'un jour on puisse, en nous regardant, dire ce sont des chrétiens. Non pas parce que nous avons un poisson sur la voiture, mais parce que tout en nous manifeste et reflète ta gloire. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit sanctifié. À toi l'honneur, la louange et la gloire au siècle des siècles. Amen. Me voici, je m'abandonne à toi. Me voici, près.